Chapitre 1. Bill Browning était depuis 5 heures aux urgences et il bouclait sa 3e intervention chirurgicale. C'était encore une blessure par balle. Le patient allait s'en sortir, comme le premier. Malheureusement, le 2e avait succombé. Un adolescent de 16 ans, victime de la guerre des gangs qui faisait rage dans une ville gangrénée par le trafic de stupéfiants. Bien que ce soit Noël, c'était une journée comme une autre au San Francisco General Hospital. C'était là qu'étaient transférés les cas les plus graves de la région, par ambulance ou hélicoptère. L'hôpital, équipé pour les catastrophes de grande envergure, possédait un excellent service de traumatologie. L'établissement était une institution publique, mais jouissait aussi de financements privés et d'une entente avec la faculté de médecine de l'Université de Californie. Tous les médecins qui y exerçaient étaient également enseignants, ce qui contribuait au prestige du lieu. Les dotations privées avaient récemment permis de faire construire un nouveau bâtiment, et ainsi doublé, la capacité d'accueil du service traumato permettait de traiter 300 patients simultanément. À côté de l'annexe flambant neuve, l'édifice d'origine restait incontestablement sinistre. Chaque porte y était verrouillée par digicode, et l'on avait déjà vu des gangs rivaux se tirer dessus au sein même des urgences, voire tourner leurs armes contre les infirmières. Malgré l'installation de portiques détecteurs de métaux, une difficulté supplémentaire à gérer pour le personnel médical déjà bien occupé par ailleurs. Bill, 39 ans, était à la tête de ce service de traumato de pointe. Il travaillait pendant les fêtes, faute de meilleurs programmes. C'était son cadeau à ses collègues, leur permettre de passer du temps chez eux, en famille, en cette période spéciale. Il n'avait que faire des célébrations de fin d'année lorsque ses filles ne les passaient pas avec lui. Il n'en avait la garde qu'un Noël sur deux. Dans l'ancien bâtiment, les infirmières avaient orné les urgences et la salle d'attente de décorations que personne ne semblait remarquer. Les patients étaient en trop piteux état et leurs familles dans un trop grand désarroi pour que quiconque prête attention aux guirlandes orphelines éparpillées un peu partout dans le service. Grippe, intoxication alimentaire, bronchite ou cheville foulée étaient envoyées vers les autres hôpitaux de la ville. Ici n'arrivaient que les cas les plus graves, ainsi qu'un flux constant de sans-abri blessés. C'était un défi de taille pour le personnel hospitalier et une expérience inestimable pour les étudiants en médecine. Au cours de sa carrière, Bill Browning avait été témoin de tout ce que les humains étaient capables de s'infliger. Plus rien ne le choquait. Pourtant, les ravages des guerres de gangs ne cessaient de l'attrister. Ces morts inutiles, ces jeunes vies gâchées à cause d'un mauvais tournant. Comme celle du garçon de 16 ans dont il avait signé le certificat de décès à peine 2 heures plus tôt. Bien loin d'un Noël idyllique, Bill Browning était sur le pont depuis 10 heures du matin et n'avait cessé de courir partout. Ses filles de 9 et 7 ans, Philippa et Alexandra, ou Pip et Alex pour les intimes, vivaient à Londres avec leur mère. Femme et enfant étaient partis dès qu'Athéna avait reçu l'accord de son pédiatre pour voyager avec Alex, alors un nourrisson de 3 semaines. Athéna brûlait de retrouver son Angleterre natale, et son mariage avec Bill s'était étiolé bien avant qu'elle ne demande le divorce. Lui avait vaillamment tenté de redresser la barre et de la convaincre de leur laisser une seconde chance. En vain. Depuis, Bill se plongeait corps et âme dans le travail. Il avait la garde de ses filles pendant 1 mois l'été et 1 Noël sur 2, et il leur rendait visite chaque fois qu'il passait à Londres. Athéna s'était remariée peu de temps après le divorce, et de cette union étaient nés des jumeaux, maintenant âgés de 2 ans. Rupert, son nouvel époux, appartenait à l'aristocratie anglaise. Il était exactement le genre d'homme sur lequel son choix aurait dû se porter dès le début. La famille d'Athéna l'avait bien compris. Ils avaient toujours considéré Bill, qu'il surnommait l'Américain, comme une erreur de jeunesse. Athéna et Bill s'étaient rencontrés à New York. Elle avait 23 ans et lui 29. Il était alors interne à Stanford, après des études de médecine à la prestigieuse Université de Columbia. Déjà à l'époque, il adorait San Francisco et son climat qui lui permettait de pratiquer randonnée et sport nautique toute l'année, et il n'était rentré dans sa ville natale que pour voir ses parents. La famille de Bill évoluait dans un microcosme élitiste et snob qui l'avait toujours mis mal à l'aise et qu'il fuyait à tout prix. Mais lors de cette fameuse visite, il avait succombé à la pression parentale et accepté de les accompagner à une soirée où il avait fait la rencontre d'Athéna. Le jeune homme avait eu le souffle coupé par sa beauté spectaculaire, un brin excentrique et tapageuse, et son côté rebelle. Athéna avait grandi dans le milieu sophistiqué et glamour de la jet-set cosmopolite et séjournait chez des amis à New York. Un vrai coup de foudre. Un mois plus tard, la jeune femme suivait Bill à San Francisco pour prolonger leur liaison torride. Puis, elle était restée. Tout le temps qu'il ne consacrait pas aux gardes interminables à l'hôpital, il le passait au lit avec elle ou à lui faire découvrir les sports qui le passionnaient. Athéna trouvait à leur histoire un charme exotique. Bill était si différent de tous les hommes qu'elle avait pu fréquenter. Il était franc, honnête, travailleur et humble. Elle était audacieuse et sexy. Un oiseau rare. 6 mois plus tard, elle tombait enceinte de Pip et il s'envolait pour Londres afin d'expliquer la situation à ses parents. Bill lui avait demandé de l'épouser, ce qu'il avait toujours eu l'intention de faire, quoique pas si tôt. Il s'était marié au cours d'une cérémonie discrète. Ni le clan américain ni le clan anglais n'étaient enchantés par cette décision. La famille de la mariée le trouvait trop ennuyeux, la famille du marié la trouvait trop osée. Il avait fallu 5 minutes à Athéna pour tomber amoureuse de Bill et 1 an pour prendre conscience de son erreur et de leur différence. Bill n'était pour elle qu'un détour, pas sa destination. Mais elle était enceinte de 6 mois et sa grossesse les avait rapprochés pendant un temps. À la naissance de Pip, Bill avait fait l'acquisition d'une demeure victorienne à No Valley, parfaite pour fonder une famille et commencer leur vie ensemble. C'était exactement ce dont il avait toujours rêvé. Une femme qu'il aimait et un bébé adorable dans la maison pleine de charme d'un quartier résidentiel et familial. Mais Athéna se sentait prisonnière comme un oiseau exotique en cage. Ses parents lui avaient envoyé une nounou de Londres afin d'alléger le poids de son nouveau rôle de mère et elle avait profité de ce luxe pour rentrer fréquemment en Angleterre voir ses sœurs, ses parents et ses amis. À chaque retour auprès de Bill et de leur bébé, elle retrouvait sa vie à San Francisco avec moins d'enthousiasme. Mais au moment où Athéna avait compris qu'elle n'avait plus de sentiments pour Bill, elle était tombée enceinte par accident après une soirée trop arrosée. Pip avait 15 mois. Athéna avait passé l'essentiel de cette grossesse à voyager entre Londres et San Francisco, de plus en plus déprimée. Malgré l'avis des siens, qui n'avaient jamais aimé la jeune femme mais étaient très déçus du mariage dans lequel il s'était empêtré, Bill s'était entêté à croire qu'Athéna finirait par se poser et s'habituer à la vie de famille. Même son beau-père lui avait suggéré d'abandonner sa carrière de médecin, de déménager en Angleterre et de rejoindre son entreprise de commerce international s'il voulait que son mariage fonctionne. Selon lui, sa fille ne se transformerait jamais en Californienne. Le seul qui refusait l'évidence, c'était Bill. 3 semaines après la naissance d'Alex, Athéna avait emmené ses 2 filles en vacances dans la résidence secondaire de ses parents dans le sud de la France. À la fin de l'été, elle avait appelé Bill pour lui annoncer qu'elle ne reviendrait pas et qu'elle souhaitait divorcer. Dévastée, il avait tenté de la raisonner, mais elle était tombée amoureuse de Rupert sur la Côte d'Azur et Bill n'avait plus aucune chance. Athéna et Rupert avaient grandi ensemble. Aussi libre et excentrique qu'elle, il faisait partie du sérail et il était lord comme son père. Cette nouvelle romance avait sonné le glas de ses 3 années californiennes. Bill était resté à No Valley jusqu'à ce que le divorce soit prononcé avec l'espoir qu'elle changerait d'avis. C'était peine perdue. Il s'était finalement résigné à vendre la jolie maison et emménager dans le quartier de l'Embarcadero avec vue sur la baie de San Francisco et son pont. 5 ans plus tard, Bill vivait toujours dans ce même appartement spartiate, à peine meublé. Il n'avait jamais pris la peine de le décorer, se contentant de l'essentiel acheté chez Ikea. Seule la chambre réservée à ses filles était égayée par une gamme complète de mobilier et d'accessoires roses. Le reste était aussi vide et désolé que son cœur. Quand ses filles lui rendaient visite l'été, ils passaient leur temps à voyager. Balades au lac Tao, camping dans la réserve naturelle de Yosemite, road trips, journées à Disneyland. Comme tous les pères divorcés, Bill tentait désespérément de créer un lien avec ses enfants durant le peu de temps qui lui était imparti. Auprès de demi-frères qu'elles adoraient, de leur beau-père et de leur mère, les filles étaient devenues de vraies petites Anglaises. Et lorsque leur père évoquait l'idée de faire leurs études aux États-Unis, seule Pip semblait vaguement intéressée. De toute façon, elle avait encore 9 ans avant d'y songer sérieusement.